Alors, commencer par ce texte d'Éphésiens au chapitre 6, juste quelques versets, du verset 10 au verset 14. Voilà ce qu'il est dit. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. » Voilà, vous avez eu la même lecture que moi. Alors vous avez tous remarqué, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr pour reconnaître que dans ce texte, eh bien, par trois fois, hein, l'expression « tenir ferme » revient. Tenir ferme contre les manœuvres du diable, tenir ferme après avoir tout surmonté, et puis donc le dernier terme, « tenez donc ferme ». Alors, juste avant de faire ce petit brainstorming, « tenir ferme », ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est serrer fortement, c'est maintenir, c'est attacher, c'est fixer, c'est maintenir en place dans la même position afin de ne pas faire tomber. Voilà, c'est mon épaule, hein. Elle est tenue ferme, elle ne tombera pas. Voilà, elle est bien attachée. Tenir ferme, c'est ça. Et ce matin, eh bien, Paul nous exhorte, bien sûr, dans les temps que nous vivons, à tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de réfléchir un petit peu ensemble, mais ça veut dire quoi, tenir ferme. Et pour cela, eh bien, on va chercher ensemble quelques verbes qui contiennent la racine tenir. D'ailleurs, déjà dans la définition, il y en a un qui contient la racine tenir. Hein, vous avez bien vu, d'accord ? On va faire ça par tranche d'âge. Voilà. Hein. On va commencer par... Y a-t-il des 6-12 ans ce matin parmi nous ? Des 6-12 ? Non ? Si. Ah, 6-13. Voilà. On va laisser d'abord les 6-13. Hein, ou les 6... Allez, les 6-15. Il y a des 6-15 ? Oui, bon, il y a des 6-15, c'est bon. Alors, les 6-15, donnez-moi au moins un verbe qui contienne la racine tenir. Dites-moi, on n'aide pas, hein, pas de Google, rien du tout. Hein. Alors, un verbe qui contient la racine tenir. Ah, appartenir, très bien, en voilà un. Super, eh oui, hein, appartenir. On le note quelque part, hein, notre technicien va appartenir. On monte en puissance, les 15-20, il y a des 15-20 ou des 15-25 ? Attention, ça va devenir de plus en plus dur. Hein. Il n'y a pas de 15-25. Ah, ils étaient tous au mariage, je comprends. Non, non, mais j'ai compris, il n'y a pas de souci. Des 25-35, il y en a ? Oui. Oh, 25-35, allez, un autre verbe avec tenir. Retenir, très bien. On monte en puissance, on était où, 25-35 ? 35-45, il y a du monde, 35-45, non ? Si ? Vous n'osez pas dire votre âge, je sais. Allez, un autre verbe avec tenir ? Entretenir, c'en est un autre. Allez, 45-55, on y va ? Soutenir, allez ! Ah, puis après on se lâche, allez, allez-y, c'est la foire, on y va. Allez, encore. Contenir. Allez, on va tous les afficher après. Hein. Contenir. Il y en a d'autres ? Détenir. Intervenir. Oh, je refuse. Je le refuse. Alors, j'ai entendu contenir. Hein. Eh oui, contenir. Il est là, contenir, devant vos yeux. Après, j'en ai entendu un autre ? Maintenir. Très bien. Il y en a encore ? On va voir. Est-ce que tu peux afficher ? Oula, mais il a mis des définitions avec ou quoi ? Contenir, obtenir, détenir, soutenir, maintenir, retenir, appartenir, entretenir, nourrir, non, abstenir. Ok ? Je crois qu'on les a tous, là. Bon, j'ai vérifié avant. Hein. En principe, on les a tous. Alors, ce matin, je vous propose justement de définir qu'est-ce que ça veut dire tenir fermement à travers donc tous ces verbes qui contiennent la même racine. Alors, c'est en français qu'on peut le faire. Hein. Je n'ai pas dit qu'en américain, en anglais, on ferait la même chose. Mais en tout cas, vous allez voir que finalement, la Bible, quelle que soit la manière dont elle a été traduite, dans toutes les langues, Dieu le connaissait. Et ce matin, il y a eu cette belle prière. « Seigneur, tu nous connais par notre nom. » 8 milliards de personnes. Nous, on a déjà du mal des fois avec notre, hein, le nôtre. Mais en tout cas, eh bien, ce matin, on propose justement de définir à travers trois grandes idées. D'abord, tenir, ça veut dire quoi ? Eh bien, on va parler de notre fondement, on va parler ensuite de nos droits, et ensuite, on parlera de nos devoirs. D'accord ? Hein, c'est le plan pour nous ce matin. Et on va essayer de mettre tous ces verbes que vous avez trouvés ce matin, donc, pour définir ce que veut dire réellement tenir fermement. Alors, le premier, il me semble, hein, a dit appartenir. Il me semble. Hein. Eh bien, ça fait partie de notre fondement. Appartenir. Appartenir, c'est ce texte de 1 Corinthiens 6, 19, hein, qui va apparaître. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc grâce à Dieu, ou gloire à Dieu dans votre corps et de votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. C'est le fondement ce matin de notre nouvelle vie. Si nous pouvons tenir ferme, c'est parce que notre foi, notre nouvelle relation, elle est fondée sur quelque chose qui est inébranlable. Désormais, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et cela doit nous aider ce matin à tenir ferme. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Appartenir, hein, c'est être à quelqu'un en vertu d'un droit et d'un titre. C'est ça, la définition. Et Jésus, nous le savons ce matin, par le prix de sa vie, a acquis ce droit. Il a acquis ce droit de nous racheter de la vaine manière de vivre, de l'esclavage du péché. Et désormais, la Bible nous dit eh bien, que nous avons une assurance. Il s'est donné lui-même pour nous, dit l'Écriture dans Tite 2,14, et de se former un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen. Tenir ferme. Nous pouvons tenir ferme ce matin, mon frère, ma sœur, peut-être, s'il y a quelques doutes parfois, et ça peut arriver à tout le monde, eh bien c'est parce que désormais, notre fondement, nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dieu, eh bien, est devenu celui qui nous conduit. Et désormais, eh bien, nous sommes son peuple qui lui appartient. C'est extraordinaire pour tenir ferme, d'avoir un fondement. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, tous les fondements de notre société sont en train de s'écrouler. On le voit. Et quand nous visitons des couples, quand nous sommes en relation parfois avec des ados, etc., il n'y a plus de base, il n'y a plus de fondement. Et là, eh bien, malheureusement, tout est permis. Et souvent, c'est pour le malheur plus que pour le bonheur. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, eh bien, nous appartenons à Dieu. Amen. Nous sommes le peuple qui lui appartient. Et désormais, eh bien, parce qu'il y a ce fondement, nous pouvons tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Amen. Nous pouvons tenir ferme. Alors, il y a aussi des droits, puisqu'il y a comme un contrat, hein, qui a été signé. Christ a payé la rançon à son Père céleste. Et il y a des droits. J'ai entendu après « obtenir ». Obtenir. Ça, c'est Hébreux 4,16. Vous avez des droits, mes frères et sœurs. J'ai des droits ce matin, c'est d'obtenir. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans Hébreux 4,16. Voilà. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi ? Miséricorde. Afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Obtenir compassion, gentillesse et compréhension lorsqu'on fait face à des moments difficiles, au lieu de blâmer, au lieu de critiquer, au lieu de juger. Obtenir, j'ai bien aimé ce terme, on ne le trouve pas souvent, hein, gentillesse et compréhension, au lieu de blâmer, au lieu de critiquer. Eh bien, ce matin, c'est un droit que nous pouvons exercer auprès de notre Père céleste, d'obtenir de sa part, vous rendez compte, de la gentillesse Et puis, de la compréhension. Dieu connaît nos limites. Dieu connaît ce matin nos cris de douleur. Dieu connaît ce matin nos épreuves, ce que nous vivons. Et à travers toutes ces épreuves, tous ces moments difficiles, eh bien, il exprime de la compassion. Nous pouvons obtenir de la gentillesse, j'aime bien ce mot, de la gentillesse et de la compréhension. On sait que quand quelqu'un souffre, ses réactions ne sont pas tout à fait normales. Hein, la douleur, l'épreuve, parfois, lui fait dire des choses qu'il ne pense pas sur le moment, mais c'est plus fort que lui. Et au-delà, parfois, de nos réactions bizarres dans l'épreuve que nous pouvons avoir face à Dieu, nous obtenons de la gentillesse et de la compréhension. Quel regard de bienveillance ce matin. Amen. Nos droits. Ce matin, nous voulons exercer ce droit. Seigneur, eh bien, je veux obtenir aussi cette compréhension, cette gentillesse, parce que, eh bien, désormais, je t'appartiens. Désormais, je suis sur ce fondement, et sur ce fondement, eh bien, je veux exercer simplement ce droit. Et puis, j'ai ajouté aussi un autre verbe, c'est détenir. Alors là, je vous confesse quelque chose, je n'ai pas trouvé dans toutes mes traductions, en tout cas françaises, le verbe détenir tel quel. Voilà. Bon, finalement, au vu de la définition de détenir, ça veut dire littéralement posséder, garder en sa possession. Alors je me suis permis, hein, vous n'allez pas m'en vouloir, mais sans trahir la pensée de l'auteur, eh bien de finalement vous proposer ce texte pour détenir, c'est dans Romains 15,4. Romains 15,4 nous dit ceci, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, alors nous possédions, nous détenions. » Voilà, hein, c'est... pour moi, la même pensée, nous détenions, nous possédions quoi ? Nous possédions l'espérance. Ce matin, frères et sœurs, eh bien, nous avons ce droit, nous possédons l'espérance. Nous détenons l'espérance. Alors, quelle est l'image que l'auteur des Hébreux donne de l'espérance ? Est-ce que vous savez le symbole qu'il donne, l'image ? Nous possédons cette espérance comme quoi ? Il y a des marins parmi nous ? Comme une encre de l'âme, solide et sûre. Et c'est une belle image ce matin, bien, qui fait partie de l'équipement de tout chrétien. Parfois, les messieurs ou les dames ont quelques pendentifs, des croix, etc. Pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Mais il y a cette belle image de l'encre. Nous la possédons. Et si ce matin, peut-être, un frère ou une sœur a oublié de mettre cette encre autour de son cou, non pas comme une esclave ou un esclave, mais pour montrer justement bien qu'elle est libérée par la puissance de Jésus-Christ, eh bien, remettez cette encre, parce que c'est votre droit, parce que Christ vous l'a acquise à la croix. C'est une belle encre, l'encre de l'espérance. Et ainsi, pour nous, ce matin, quelles que soient les tempêtes, les moments difficiles, eh bien, cette encre va assurer notre vie. Ça va bouger un petit peu. Alors, quelques vagues peut-être, mais le bateau que nous sommes, eh bien, ne va pas partir à tout vent, ne va pas se fracasser, parce que l'angle de l'espérance nous maintient. Et ce matin, nous le savons, quelle espérance a ce monde, hein ? On suit les actualités les uns les autres. Où va notre monde ? Alors, en tout cas, nous savons où nous allons, parce que le Seigneur, lui, est notre espérance, et nous détenons cet angle. Voilà, on arrive à nos devoirs. Vous aimez les devoirs ? C'est un terme que peut-être notre chair n'aime pas trop, ou alors ça rappelle de mauvais souvenirs à certains, à l'école, hein, quand il fallait faire quelques devoirs, etc. Je ne sais pas si vous étiez bon élève ou mauvais élève. Enfin, je ne sais pas s'il y a des mauvais élèves. Ça, ce sera un autre débat aussi. Hein. Donc, vous voyez hein, comment on peut être parfois un petit peu canalisé. Mais en tout cas, notre chair, pour la plupart d'entre nous, nous dit ceci, moi les devoirs, j'aime pas ça. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux, allons-y, hein, tant qu'il y a le « je veux » avec. Les devoirs. Ben oui, s'il y a un contrat, s'il y a une alliance entre moi et Dieu, il y a des droits. Nous obtenons, nous détenons. Mais il y a aussi, en contrepartie, des devoirs. Dans toute société, il y a des droits et des devoirs. C'est tout à fait normal. Et là, on va ce matin ensemble définir, oui, quelques devoirs. 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. Toujours avec ces mêmes verbes que vous m'avez donnés, qui contiennent cette racine « tenir ». 1 Thessaloniciens, là c'est l'homme contre la machine, c'est le premier qui trouve le verset qui a gagné. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi j'ai qu'une main. Non, je ne me suis pas planté, c'est l'ordinateur. Non. L'homme ne se plante jamais. 1 Thessaloniciens 5, 19. Très bien, merci. Alors, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. On va continuer ensuite, si c'est possible. Autrement, je passerai en mode manuel. Examinez toutes choses, retenez. Ah, retenir, hein. On retient, retenir. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Eh bien voilà, c'est bon. On va laisser le verset 22 parce que nos deux verbes sont là, dont la racine tenir est là. Voilà, il y a d'abord le verset abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà. Donc retenez d'abord ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. J'étais parti dans le sens contraire. J'avais commencé par abstenez-vous de toute espèce de mal et après retenez ce qui est bon. Et puis j'ai relu le texte, je me suis dit non, Paul n'a pas écrit dans ce sens. Il a commencé par retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Et je me suis dit, s'il l'a écrit comme ça, c'est que quelque part, ça veut dire quand même quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Alors, je me suis dit, finalement, on ne peut pas s'abstenir du mal que si d'abord nous avons retenu quelque chose de bon. On ne peut pas s'abstenir de quelque chose si notre cœur n'a pas d'abord rempli. J'avais un prof de physique qui nous disait toujours ceci, je ne sais pas si c'est encore valable en physique, hein, ça a tellement évolué, la nature a horreur du vide. Vous avez déjà entendu ça, non, par vos profs, hein? Voilà. Bon, c'est peut-être vrai encore. Hein? Il faut que la nature, s'il y a un vide, hop, elle compte tout de suite. La nature a horreur du vide. Alors, si je me contente ce matin simplement de m'abstenir, de ne pas faire, de faire des efforts pour, ben, rapidement, à un moment donné, ça va être insoutenable. Ça va être irréalisable. Parce que je n'ai rien à proposer dans le garde-manger, pour combler. Je n'ai rien. Et ce dont je m'abstiens va me manquer terriblement parce que ça ne pourra pas être comblé. Ça ne pourra pas être comblé. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste avait dit ceci, il faut d'abord qu'il croisse et que je diminue. Et il faut que la vie de Dieu se développe en moi pour pouvoir combler ensuite eh bien, ce à quoi je vais devoir renoncer. Et Paul a raison. Et Paul a raison. Et il dit d'abord, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Alors que ce soit dans le cadre des prophéties ou finalement de manière générale dans la vie, eh bien, mon devoir, ce matin, c'est de retenir ce qui est bon. Quand vous avez un fruit qui est gâté, qui est un petit peu pourri, vous faites quoi? Bah, vous allez quand même séparer ce qui est pourri, ce qui est gâté de ce qui est bon. Et puis vous allez retenir le meilleur, le reste on peut le jeter. Mais on retient ce qui est bon. En marketing, je relisais ces statistiques, il y a quelque chose d'extraordinaire, hein, concernant les statistiques. Un client satisfait le dit à trois autres. C'est pas mal, hein? Un client insatisfait le dit à combien d'autres? À votre avis? C'est un peu moins, mais c'est 9 autres. Alors, moi, mais ça peut être ça. Tout simplement pour dire que naturellement, et vous le savez, eh bien, on est beaucoup plus enclin à dire ce qui nous a frustrés, ce qui nous a insatisfaits. On n'est pas content, je sais, on est des Français, hein, pour la plupart, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Naturellement, l'homme est plus enclin à retenir et à partager ce qui ne l'a pas satisfait, ce qui l'a frustré. Alors, ce matin, avec Paul, inversons la courbe des statistiques. Est-ce qu'on pourrait inverser la courbe des statistiques? Et Paul me dit, retenez ce qui est bon et puis partagez-le. Partagez-le. Connaissez les trois filtres d'un certain, il me semble c'est Socrate, hein? Quand un disciple voulait parler sur un autre disciple, pas en bien, bien sûr, mais il voulait, etc. Alors, Socrate lui disait ceci dans sa communication, etc. Avant de communiquer, trois questions à se poser. Est-ce que ce que tu vas dire est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est édifiant ? Est-ce que ça va faire du bien ? Et puis, est-ce que ça va être utile ? Pas mal, hein, comme question de communication. Elles sont très simples. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est édifiant ? Est-ce que c'est utile ? Et le brave disciple dit non à toutes les questions. Alors, Socrate lui dit, mais pourquoi le retenir et le partager ? Pourquoi le retenir et le partager ? Sachons donc faire du tri sélectif. Hein, c'est bientôt la rentrée, etc. Faisons du tri et puis retenons ce qui est bon. Afin d'avoir une bonne alimentation, pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir nous abstenir. Eh oui ! Quand j'ai devant moi une multitude de desserts bien présentés, je peux m'abstenir de l'entrée. Ça ne me dérange pas. Je peux m'abstenir du plat. Ça ne me dérange pas. Parce que mon estomac va être satisfait avec tous ces beaux desserts qui sont devant moi. Par contre, effectivement, si je n'ai pas mes desserts, etc., ça va être compliqué de m'abstenir. Ouh là, l'estomac va commencer à crier famine. Pourquoi nous pouvons nous abstenir ce matin ? Eh bien, parce que nous avons retenir ce qui est bon. Parce que s'abstenir, c'est s'interdire, c'est se refuser, c'est renoncer, c'est se priver d'eux. Et ça, notre chair n'en veut pas. Et nous n'en voulons pas non plus. Et pour cela, il faut bien sûr avoir retenu ce qui est bon. Alors, l'Écriture nous parle à quoi nous pouvons nous abstenir. Titre 2, 11, 13. Nous dit ceci, elle nous enseigne cette source du salut, la grâce de Dieu, voilà, c'est la grâce de Dieu, à renoncer à s'abstenir à un mode de vie impie, aux convoitises du monde, et à vivre dans des temps, conformément à la sagesse, la justice, la piété, en attendant notre bienheureuse espérance. Vous avez remarqué ici, l'abstinence, s'interdire d'eux, est bien encadrée. C'est encadré d'abord par la grâce de Dieu, qui est la source, et c'est encadré par l'espérance que nous avons. C'est extraordinaire. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous pouvons nous abstenir, nous pouvons renoncer, nous pouvons nous interdire d'eux, nous pouvons refuser, parce qu'il y a un cadre qui est favorable, parce qu'il y a un cadre qui est épanouissant. Il y a la grâce de Dieu qui est la source, et puis ensuite, bien sûr, il y a l'objectif, c'est l'espérance du retour de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Comment Dieu réellement change une morale parfois évangélique, chrétienne, difficile ? Ah oui, si je me convertis, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça, etc. Non. D'abord, il faut se nourrir. D'abord, il faut recueillir. Et puis, étape par étape, eh bien, nous pourrons nous abstenir. Nous pourrons refuser. Nous pourrons renoncer. Parce qu'il y a la grâce de Dieu et puis il y a l'espérance qui est en Jésus-Christ. Amen. Le cas du renoncement, mon frère, ma sœur, n'est pas si difficile que ça. Il n'est pas difficile du tout. C'est la grâce de Dieu et puis la bienheureuse espérance qui est en Jésus-Christ. Tenir fermement, c'est donc, oui, Paul le déclare, c'est s'abstenir. C'est s'abstenir. Et puis, tenir, il y a encore quelques verbes et on conclura. Éphésiens 5, 19. C'est ce qu'on a fait ce matin. J'aime bien. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors j'ai ajouté entretenir et maintenir. Voilà. Pour moi, il y a la même pensée de la maintenance, entretenir. On connaît tous ce principe ce matin d'entretien, de maintenance, et cela dans tous les domaines de nos vies. Alors ça passe par les soins du corps, l'entretien de sa mémoire, pour certains déjà, oui, il faut l'entretenir, la mémoire, il faut faire des mots croisés, des mots fléchés et autres. On entretient aussi son dentier, bon, ça ne m'arrive pas encore, mais ça viendra peut-être. Les maintenances des outils de production, l'entretien de la maison, de la voiture, etc. Et pour bien sûr qu'on entretienne, il y en a un jour qui a eu une idée de génie, il a dit, je vais mettre en place un programme d'obsolescence programmée. C'est extraordinaire quand même, On a quand même des génies pour nous aider à un moment donné à entretenir et puis à s'arrêter et à reprendre et à racheter quelque chose. Moi, je l'ai vécu lorsque, dans les années 80, j'ai fait un stage que je ne nommerai pas, bien sûr, le bureau d'études. Enfin, l'entreprise a fermé depuis. Mais quand je suis arrivé, alors c'était à l'époque, vous savez, où on travaillait encore en blouse grise, voilà, on s'appelait monsieur alors que j'avais que 18 ou 19 ans, c'était extraordinaire quand même, et puis on travaillait sur des grandes planches à dessin, je ne sais pas si certains ont connu ça, hein. Et à la règle à calcul. Ah, la règle à calcul, hein. Pas de calculatrice, hein. Tout à la règle, et ça marchait bien la règle à calcul, hein. C'était un instrument extraordinaire, les jeunes ne connaissent pas la règle à calcul, ça m'étonnerait. Hein. Et donc là, je travaillais dans un bureau d'études où on construisait des trains d'engrenage pour les remontées mécaniques. Et il y avait à l'époque une formule qui s'appelait la formule Henriot. Il y avait plus de 50 paramètres qu'il fallait rentrer pour faire les calculs de trains d'engrenage, les dimensionnements, etc. Ceux qui travaillaient avec moi, en tout cas qui m'accueillaient, me disaient ceci, eh bien, on sait très bien que dans 5 ans, les engrenages vont lancer. La formule le disait. Il aurait fallu simplement changer un ou deux paramètres pour qu'ils durent 15-20 ans, mais non, on ne voulait pas. Pourquoi ? Eh bien, pour la boîte, c'était bien. Hein. Dans 5 ans, on avait à nouveau le client, « Oh mince, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Oh, on ne sait pas trop, c'est peut-être le froid, c'est peut-être le poids des skieurs, etc. Hein. » Désolé, mais c'était programmé. C'était programmé. En tout cas, l'entretien sert régulier, bien sûr, sert à prolonger la durée de vie, à changer les pièces avant que ça casse, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on est tous soumis ce matin à un phénomène d'usure. Vous avez remarqué ? De fatigue. Le temps, on se bat contre le temps, etc. On peut faire ce qu'on veut, il y a l'épreuve, il y a la pression, il y a les comptes. Et on y passe tous. On y passe tous. Alors, notre vie spirituelle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être entretenue, entretenir dans la prière, dans l'adoration. Alors, il y a un bon programme d'entretien. Allez, en 4 points. D'ailleurs, il est très facile. C'est Actes 2, 42. Vous le connaissez parce que vous le pratiquez. Et j'encourage, comme l'Écriture, à persévérer dans cet entretien. Il dit ceci. Il persévérait, Actes 2, 42. Dans quoi ? Il y a quatre points d'entretien. L'enseignement des apôtres, voilà, c'est la méditation, la lecture, la parole de Dieu, le partage, etc. La communion fraternelle, voilà, que ce soit 2, 3, 10, 15, 20, etc. La fraction du pain, hein, l'expression là aussi du souvenir de ce Christ accompli pour nous, et puis dans les prières. Et ça, ne lâchez pas ce programme d'entretien, mes frères et sœurs. Parce que, bien, il entretient notre vie spirituelle, parce qu'on est tous soumis aux mêmes pressions, à la même usure, à la même fatigue, personne n'y échappe. Mais ce matin, bien, il y a ce beau programme d'entretien pour nous. Et puis, un dernier verbe pour nos devoirs, et on conclura. Tenir, c'est soutenir. On en a parlé. Hein. Tenir, c'est soutenir. Littéralement, soutenir, c'est tenir en dessous. C'est servir d'appui, c'est maintenir debout. Hein. C'est ça que veut dire le verbe soutenir. Et l'Écriture nous rappelle ce matin que désormais, c'est notre vocation. Soutenir. Alors, quelques versets. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Acte 20, 35. Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis 1 Thessaloniciens 5, 14, nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Il y a un exemple qu'on connaît tous, hein, c'est celui du soutien que Moïse a reçu lorsqu'il était en train de prier pour Josué qui était en train de combattre Amalek dans la vallée. Et Moïse, il y va, il commence bien. Les deux mains levées, etc. Il commence à intercéder, il prie, il se tient devant Dieu. Et là, la Bible nous dit que Josué dans la vallée, il est vainqueur. Que se passe-t-il avec Moïse ? L'homme le plus patient, l'homme de Dieu qui voit Dieu face à face, 40 jours, et lui dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Que se passe-t-il avec notre Moïse ? Il est comme vous et moi. Enfin, lui, il peut lever encore ses deux bras, moi je n'en ai plus qu'un. Il fatigue. Il y a l'usure, un phénomène normal. Et là, il y a Aaron et Hur qui sont à ses côtés. Hein, Aaron, on pourrait dire que, de manière symbolique, Aaron, bien sûr, représente la sacrificature, c'est Jésus en tant que sacrificateur. Et puis de l'autre côté, il y a Ur, qui est un prince d'un clan, et là, c'est la royauté de Jésus. Et là, bien, chacun va se mettre à côté de Moïse, ils vont l'asseoir, et puis ils vont soutenir ses bras. Ils vont le soutenir. Et ce matin, c'est une belle image pour nous, Jésus nous soutient en tant que souverain sacrificateur et en tant que roi des rois. Amen. Il nous soutient. Et nous sommes appelés, nous aussi, à soutenir, à encourager celui qui est faible. Je ne sais pas si certains ont lu la biographie du Sadhu Sundar Singh. Ça vous dit quelque chose? Quelques-uns? Oui, quand même. Hein, d'accord. C'est un missionnaire chrétien, et s'est converti, il était hindou, du début du XXe siècle. Et alors, il a évangélisé, hein, Jésus lui apparaît à 15 ans. C'est extraordinaire quand même. Et ayant béni Dieu pour nos jeunes, pour nos ados, pour nos enfants qui connaissent Jésus dès leur plus jeune âge. Dieu veut s'en servir pour là où ils sont, dans leur lycée, dans leur collège, dans leur école primaire, être des témoins de Jésus. On le croit ce matin. Amen. Et en tout cas, lui, eh bien, il va parcourir, il va prêcher en Inde, au Tibet, dans l'Himalaya, et puis même en Europe. Et on raconte cette histoire que c'est un jour, il est accompagné de deux hommes, et puis ils sont trois là, ils sont alors peut-être dans une chaîne de l'Himalaya, je ne sais pas où, il y a de la neige, le froid, le vent, vous aimez, et puis là une tempête de neige les surprend. Alors ils connaissent un petit peu la route, ils savent qu'il y a quelques centaines de mètres peut-être un refuge, mais la tempête est tellement violente eh bien que la marche est ralentie, et puis il y a un des compagnons qui a du mal, il n'avance plus, laissez-moi ici, je n'en peux plus. Et le Sadhu insiste, il dit non, on va te soutenir, on va se soutenir et on va traverser ensemble cette épreuve. Et puis ils avancent péniblement. Et le troisième dit ceci, moi je ne peux plus, je ne veux pas, il est trop lent, soit on l'abandonne sur place, soit je vous quitte. Ça, je vous quitte, mais je ne peux plus soutenir cet homme, il nous ralentit, il va nous faire mourir. Et alors le Sadhu lui dit, non, restons ensemble. Et cet homme ne veut rien entendre, il part devant eux. Et le Sadhu se retrouve tout seul avec cet autre compagnon qui n'a plus de force. Et là, bien, il va faire ce qu'il peut, il va le prendre sur son dos, et puis il va marcher, avancer péniblement, la tempête est là, etc. Il avance, il sait que le refuge est devant, mais pour l'instant, et à un moment donné, eh bien, il y a comme une motte déjà revêtue de neige. C'est le compagnon qui était parti tout seul, qui est mort gelé. Et les deux hommes avancent péniblement, et puis là, enfin, eh bien, le refuge s'ouvre à eux, ils sont sauvés. Pourquoi ont-ils été sauvés ? Eh bien parce que malgré le froid, malgré la tempête, les deux hommes, leur chaleur corporelle les a gardés en vie. Et même s'ils ont avancé péniblement, eh bien, ils ont été jusqu'au refuge. Le Sadhu Sundar Singh, eh bien, avait soutenu. Et celui qui l'avait soutenu, eh bien, l'avait aidé à vivre. Et c'est une leçon que Dieu nous donne parfois. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je soutienne quelqu'un ? Je n'ai pas de don particulier, je n'ai pas de talent, etc. etc. Un coup de téléphone, un mot, je prie pour toi, je ne suis pas au courant de toute ta situation, mais si tu as besoin, etc. Simplement ça, c'est un soutien extraordinaire. Et vous ferez l'expérience, et vous l'avez déjà faite, qu'en soutenant de cette manière, bien vous aussi, vous serez encouragé, même si vous avez vos propres problèmes. Même vos propres difficultés en soutenant. J'aimerais vous laisser un merveilleux texte, c'est Ésaïe 58. Ça, je ne sais pas si j'ai donné à mon compétiteur. Voilà. Mais je l'ai avant toi ce coup-ci. Ésaïe 58, verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Le jeûne que je prends plaisir, détache les chaînes dues à la méchanceté, dénoue les liens de l'esclavage. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu le vois, un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra, tu crieras, il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi les contraintes, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds au besoin de l'opprimé, ta lumière surgira du milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins. Dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, grâce à toi, eh bien, il est dit ceci, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations, on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Amen. Grâce à toi. Soutenons, soutenons. Alors pour conclure, eh bien, je fais un petit récapitulatif, tenir fermement, c'est donc s'appuyer sur un fondement. Nous appartenons à Dieu. Amen. Nous appartenons à Dieu. C'est vivre dans nos droits, obtenir compassion, détenir l'encre de l'espérance. C'est extraordinaire ce matin. Obtenir compassion, détenir l'encre de l'espérance. Et puis c'est accomplir nos devoirs, retenir ce qui est bon, s'abstenir de toute espèce de mal, entretenir sa vie spirituelle et puis soutenir le plus faible. Dans 2 Chroniques 6-18, parce qu'il nous manque un verbe. C'est le verbe contenir. Je me dis, je fais quoi avec le verbe contenir? Des fois, les prédicateurs, ils se posent de drôles de questions. Hein. C'est bien, Didier, tu fais avec tenir, mais on fait quoi avec contenir? Voilà. Alors, j'ai pensé à la prière de Salomon, puis cette expression. C'est à l'inauguration du temple, et voilà ce qu'il dit. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâti. Et je me suis dit, finalement, Salomon réalise quelque chose ici, au niveau du temple, etc. L'immensité, encore le mot est très faible, de la grandeur de Dieu. Et puis il exprime à juste titre un questionnement sur l'intimité que Dieu propose à l'homme. Comment peut-il accepter d'établir une relation personnel avec l'homme, alors que le ciel, les cieux ne peuvent le contenir. Il y a un fossé qui est énorme, il y a un abîme. Et alors, eh bien, tout simplement, ce matin, parce que Dieu nous aime d'un amour éternel, que le ciel et les cieux des cieux ne peuvent contenir. Vous vous rendez compte? L'amour que Dieu a pour nous ce matin, et c'est ce qui va nous faire tenir ferme. C'est son amour que même le ciel, les cieux des cieux ne peuvent contenir. Et c'est une réalité ce matin, eh bien, qui va nous aider à tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. C'est notre prière ce matin, les uns pour les autres, que le peuple de Dieu tienne ferme. Et je vous propose justement comme une proclamation. On ne va pas faire un appel particulier ce matin, mais chacun d'entre nous va pouvoir se positionner, exprimer cette réalité à travers un chant. On a choisi ce chant qui nous dit « Nous tiendrons établis sur le roc ». Amen, nous tiendrons. Et on va demander à nos frères et sœurs bien de nous conduire dans ce chant et de le chanter, oui, comme une prière pour certains, comme un renouveau pour d'autres, comme une proclamation. Et à travers ce chant, bien que chacun se rassure, nous avons un Dieu qui nous aime et qui, ce matin, bien, va nous aider à tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen.